c'est une littérature qui existe en tant que telle depuis maintenant quasiment 2 siècles. Hein. Pour moi, comme dans le terme science-fiction, il y a le terme science, je considère que le premier véritable roman de science-fiction stricto sensu, c'est le Frankenstein de Mary Shelley. C'est la première fois où c'est le scientifique fou, qui deviendra un personnage récurrent après, qui crée quelque chose. Avant, on est dans des utopies, l'aspect scientifique dans les romans du XVIIe, XVIIIe siècle, l'aspect scientifique est complètement absent. Donc, on dit 2 siècles, et c'est vrai que constituer à partir de ce domaine de toute pièce une collection de science-fiction que l'on puisse considérer comme représentative du genre, ça peut se révéler une tâche assez ardue. Je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même collectionneur depuis plus de temps maintenant que je n'ose l'avouer et que je commence à avoir une bibliothèque relativement conséquente. Pour vous donner une idée dans les domaines, bon, non seulement science-fiction mais aussi fantasy, fantastique parce que j'ai des mauvais goûts polymorphes, je possède plus de 7000 volumes, plus les collections de revues, etc. Donc, j'ai une petite approche et je ne considère pas encore que ma bibliothèque soit totalement représentative de ces domaines. Quand j'arriverai à 20 000, là, peut-être que oui, je me dirai, ça y est, ça commence, mais je crois que je serai mort avant. Bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous fournir un certain nombre de repères. Sans prétendre à l'exhaustivité, parce que dans ce cas-là, on y serait encore demain, pour couvrir l'ensemble de cette littérature, donc je me cantonnerai uniquement à la littérature science-fiction proprement dite. Je ne parlerai pas de fantasy ni de beatnik ou de fantastique. Je ne vous parlerai pas de BD. Je ne vous parlerai pas non plus de la littérature science-fiction jeunesse, parce que là aussi, c'est un domaine qui est excessivement vaste. Donc, on reste sur adultes ou jeunes adultes. Hein. Bon. Comme vous le savez peut-être, la France a été depuis les années 60 l'un des grands pays en matière de lectorat de science-fiction. On a été considéré pendant longtemps, dans les années 70 en particulier, la France était considérée comme le second pays au monde du point de vue science-fiction après les États-Unis. D'ailleurs, certains d'entre vous se souviennent peut-être du nombre faramineux de collections qui existaient dans les années 70. Et donc, quelques-unes ont quand même survécu. C'est d'ailleurs par ça que je vais commencer maintenant. Parce que les éditeurs qui sont acteurs du domaine aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont vraiment ceux qui sont importants. Alors tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la doyenne des collections que vous voyez ici. C'est Ailleurs et Demain, chez Lafon, 40 ans d'âge, plus de 40 ans d'âge. Le même directeur, créateur de la collection, Gérard Klein, toujours à la barre, bon pied, bon œil. Et une couverture qui, à l'époque, ça c'est le premier volume de la collection, le Vagabond, qui à l'époque avait été quelque chose de tout à fait novateur, couverture métallique qui est devenue excessivement célèbre, et dans laquelle ont été publiés à peu près tous les plus grands auteurs américains et français. Ensuite, au niveau de ce que j'appellerais aujourd'hui les acteurs incontournables du domaine, vous avez vous avez La Talente qui publie à la fois des nouveaux auteurs et des auteurs confirmés et présente la particularité intéressante de publier des auteurs hors du domaine anglo-saxon, des Allemands, des Espagnols. Ça, c'est un bel effort qui est à souligner. Ici, vous voyez un des livres d'Andreas Eschbach, ou Eschbach, je ne sais pas très bien, je ne parle pas l'allemand, donc qui est l'un des grands auteurs allemands. Ensuite, Yann Nemos, qui publie beaucoup de... de rééditions de livres classiques étrangers, mais aussi s'est fait une spécialité de découvrir les nouveaux talents en matière d'auteurs français. Ici, par exemple, c'est Laurent Poujoie qui a fait pas mal de bruit il y a 2 ans avec la parution de L'Ange Blond. Bien entendu, parmi les acteurs incontournables, y compris en matière de science-fiction, il y a les éditions Brajlon, que tout le monde connaît. On a tendance à les étiqueter fantasy et bit-lit, mais Brajlon publie aussi, il y a des grands amateurs chez eux, et ils publient aussi d'excellents romans de science-fiction. Comme par exemple Paul Macaulay ici, avec La guerre tranquille du grand space opéra. Un autre acteur incontournable du domaine, ce sont les éditions du Bélial, bien entendu, qui fait là aussi grande sélection, toujours très bonne, à la fois des grands auteurs classiques de l'âge d'or américain et de nouveaux auteurs, comme par exemple Karine Lowashi. Là aussi, du très bon grand space opéra. Bien entendu, il y a la collection Lune d'encre chez De Noël, qui publie là aussi des auteurs et des romans qui sont, je dirais, souvent plus en pointe. Ian MacDonald, là, Le fleuve des dieux, c'était un roman magnifique. Il reste aussi, bien entendu, encore le fleuve noir qui a été le grand ancêtre avec la mythique collection Anticipation, dont tout le monde, un jour ou l'autre, a lu au moins un exemplaire, que ce soit dans sa première incarnation avec les belles couvertures de Branton et la petite fusée qui changeait à chaque fois sur le dos, ou dans sa seconde incarnation blanche et bleue. Donc ça continue sous la direction de Bénédicte Lombardo, et là ce sont des textes aujourd'hui qui sont souvent non plus de la science-fiction populaire, mais bien au contraire de la science-fiction qui est assez exigeante. Donc ça, on vient de parler des grands ou moyens formats. Il y a aussi 3 collections en format poche qui sont toutes les 3 incontournables. La plus ancienne, voilà, c'est J'ai lu, qui a été fondé par Jacques Sadoul au début des années 70 et qui a quasiment publié tous les auteurs français et anglo-saxons. Ici, bon, c'est le célèbre Étoile garde à vous, Starship Troopers de Heinlein. Mais il y a aussi tous les grands auteurs français et beaucoup des auteurs moins connus. Donc vraiment une collection très exhaustive. Ensuite, il y a Pocket, qui a été fondé par Jacques Boimard, qui sort plutôt des livres des récents, mais qui présente le grand intérêt maintenant d'avoir décidé de republier beaucoup d'intégrales. Ici, par exemple, toute la série des Dragons de Perne de Anne McCaffrey. La 3e collection, la petite dernière, les petits genoux, c'est Folio SF, 10 ans seulement, mais une très belle sélection sous la houlette de Pascal Godbillon. Ici, par exemple, la réédition en format poche de l'Uchronie d'Hugo Bellagamba, Tancred. Et Folio a l'avantage aussi de bénéficier de tout le fonds qui existait anciennement de la collection Présence du Futur. Donc ça leur donne un très beau fonds de classique. Et je pourrais vous dire, bon, si vous voulez constituer un fonds de science-fiction, bah vous achetez ces 3 collections en poche, vous achetez les 3 intégrales, c'est terminé, au revoir, il n'y a plus rien à dire, vous aurez tout. Bon, on va pas le faire, mais sachez que avec des budgets restreints, en piochant dans ces 3 collections, vous avez vraiment à peu près tout ce qui compte, et au-delà. Bon, on va quand même continuer, parce qu'il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont plus petites, mais qui sont aussi très intéressantes, parce que souvent, ce sont elles qui font ce travail que devraient faire les grands éditeurs, à savoir rechercher beaucoup les nouveaux talents, donner leur chance à des jeunes auteurs pour leur premier roman, etc. Alors, la première de ces maisons d'édition que je trouve très intéressante, ce sont les éditions des Moutons électriques, dirigées par André-François Ruault, qui non seulement publie d'excellentes fictions qui ont souvent fait beaucoup de bruit, je pense par exemple à Gagner la guerre de Jaworski, etc. Et Ruault s'est aussi spécialisé dans la publication d'essais dans les domaines de l'imaginaire. Et en général, tous ces essais sont tous plus remarquables les uns que les autres. Alors, ici, par exemple, c'est celui qu'il avait écrit sur le space opéra. Donc, si vous voulez tout savoir sur le space opéra, en lisant ce bouquin, ben, vous avez une très bonne idée. J'ajouterai qu'en plus, ce sont souvent des jolis livres objets. Ensuite, ben, bien entendu, il y a ActuSF, qui est à l'origine un site associatif et qui aujourd'hui est devenu l'un des acteurs incontournables du domaine, qui est devenu lui-même éditeur et qui publie à la fois des auteurs français, comme par exemple ici Sylvie Lainé, mais aussi des livres de grands auteurs. Ils ont publié récemment du Robert Heinlein, publié du George Martin. Bon, c'est pas rien. Un autre petit éditeur que j'aime beaucoup parce que je fais partie des gens qui ont été la génération anticipation, c'est la maison d'édition Rivière Blanche qui a été créée par Jean-Marc L'Officier et Philippe Ward et qui est un hommage à anticipation et à la science-fiction populaire. Hein, vous reconnaissez tout de suite le format de la collection et qui a publié à la fois les auteurs anciens du Fleuve Noir que lorsqu'ils avaient été abandonnés à la fin de la collection, donc on a trouvé dedans des inédits de Bessières, de Jimmy Dieu, de P.J. Hérault, mais aussi des jeunes auteurs qui ont envie d'écrire de la science-fiction populaire. Bon, ici c'est un vieux jeune auteur, c'est P.J. Hérault, qui connaît un succès qui ne se dément pas. Alors il y a naturellement beaucoup d'autres petites maisons d'édition que j'aurais pu citer, qui se trouvent, d'ailleurs vous en rencontrerez un grand nombre ici, hein, les éditions du Riez, Argemios, Griffes d'encre, etc. Qui publient aussi beaucoup de fantastiques, mais sont moins spécialisées dans la science-fiction que celles que je viens de citer. Donc, voilà où se servir pour constituer son fonds. Maintenant, évidemment, le problème le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Quoi choisir ? Quel domaine faut-il privilégier ? Parce que dans la science-fiction, il y a beaucoup de sous-genres, hein. Le space opéra, le planète opéra, les histoires de robots, le steampunk, le cyberpunk, l'Uchronie, les voyages dans le temps, les civilisations disparues, et j'en oublie encore beaucoup, hein, toutes les histoires de mutants, etc. Bon, d'autant plus qu'on constate que selon les époques, il y a certains domaines qui sont un peu plus mode ou tendance que d'autres. Hein, le post-apocalyptique aussi, qui est une valeur toujours sûre, ça ne se dément jamais. Donc, je vais vous proposer quelques noms d'auteurs, quelques titres éventuellement, qui sont basés sur mes lectures, sur mes goûts personnels. Je suis un lecteur éclectique, alors j'aime tout en principe, mais je tiens à dire que là, c'est quand même, je pense... Il faut bien tenir compte de ça, c'est en partie subjectif. Et puis aussi, il y a le problème de temps, pour en parler. Donc, je passe sur les deux pères fondateurs de la science-fiction, Wells et Verne. Je pense que vous avez tous leurs œuvres dans vos rayonnages. Hein. De même que, je suppose, du moins je l'espère, vous avez tous l'intégrale de Lovecraft, hein. Qui était sorti, les trois volumes de chez Bouquin, honte à ceux qui ne les ont pas déjà. Bon, donc maintenant passons, on commence avec les débuts. Je pense qu'il faut d'abord avoir un petit peu de SF historique, même si c'est vrai qu'on a, que beaucoup de lecteurs aujourd'hui la trouvent désuète. Bon, il y a un ouvrage qui est incontournable, c'est Chasseur de chimères, l'anthologie de Serge Lehmann, chez Omnibus. Hein, c'est la vieille SF française dans ce les meilleurs, parce que très honnêtement, 95%, il faut vraiment être un amateur hardcore pour les apprécier. Mais ça, ce sont des romans qui aujourd'hui encore ont bien vieilli, se laissent lire très agréablement. Et j'en profite d'ailleurs pour dire un mot d'Omnibus. Omnibus, que je n'ai pas cité avant, parce que ce n'est pas un éditeur vraiment spécialisé, mais Omnibus a publié de nombreuses intégrales de cycles en matière de science-fiction qui sont souvent essentielles. D'ailleurs, vous en retrouverez certaines je citerai après, comme par exemple, tout de suite, un autre auteur, à mon avis, incontournable de l'ASF ancienne et qui se lit toujours avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est bien entendu Edgar Rice Burroughs, connu pour Tarzan, mais aussi pour John Carter. On fête le centenaire de Tarzan et de John Carter cette année. Il y a le film de John Carter chez Disney qui va sortir, et Omnibus a eu la très bonne idée là, de sortir les 5 premiers romans du cycle de Mars, sachant qu'au total, il y en a 11. Mais les 5 premiers sont vraiment les meilleurs. Les autres, après ça, très honnêtement, Burroughs commençait à tirer un petit peu trop sur la corde pour exploiter le filon. Bon, je pense ensuite que, mis à part ça, il faut avoir bien entendu quelques ouvrages des grands auteurs classiques des années 50 à 80, dont beaucoup sont d'ailleurs réédités aujourd'hui, ce qui est la preuve que leur succès ne se dément pas et qu'ils sont toujours d'actualité. Donc, si on considère d'abord ceux qui sont les essentiels, bon, bah, bien entendu, alors dans le désordre, hein, c'est pas un classement du meilleur au un petit peu moins bon, c'est un petit peu dans le désordre. Donc, bien entendu, Isaac Asimov, hein, le cycle de Fondation en deux volumes chez Omnibus, et puis naturellement ces histoires de robots, hein, tous ces cycles avec ces robots, les fameuses 3 lois de la robotique. Donc ça, c'est incontournable, 2 volumes aussi chez Omnibus, mais ça aussi tout a été édité par exemple chez GU. Voilà. Un autre très grand, c'est bien entendu Robert Heinlein. Donc, alors là, je montre Starship Troopers, mais bien entendu, il y a tout le cycle de l'histoire du futur, etc., qui sont parus entre autres chez J'ai lu. Il y a Marionnettes humaines, tous ces romans jeunesse, comme par exemple Citoyenne de Galaxie. Alors là, il y en a beaucoup qui sont réédités au livre de poche, hein, qui fait des choses. Pas mal. Donc là, Heinlein, tout est bon, c'est comme dans le cochon, il n'y a rien à acheter. Bon. Autre très grand aussi, Poul Anderson, hein, 2 cycles essentiels. D'une part, son cycle des aventures de Dominique Flandry, agent secret de l'Empire terrien, qui essaye d'empêcher l'arrivée de la longue nuit. Donc ça a été réédité chez La Talente, y compris avec la traduction de ce qui était resté inédit en français après sa première publication au CLA. Et l'autre grand cycle célébrissime, c'est la Patrouille du Temps, là aussi intégrale publiée au Bélial en 3 volumes. Ça, c'est magnifique. Bien entendu, Frank Herbert. Bon, je pense que tout le monde a Dune, c'est passé quasiment maintenant dans la littérature générale, hein, totalement indémodable, Dune. Mais le reste des romans de Frank Herbert sont aussi souvent à découvrir. Donc là aussi, essayez d'éviter les innombrables préquels, séquels, etc. Après, allez, soyons généreux, les 3 premiers de Dune. évitez, au lieu de dépenser votre budget sur le reste, hein, les machins écrits à partir d'une note retrouvée au dos d'une enveloppe de Frank Herbert de trois mots, Kevin G. Anderson vous a pondu 350 pages serrées. Évitez, dépensez pas votre argent pour ça, très honnêtement. Achetez plutôt d'autres romans de Herbert. Bon. Un autre très grand, bien sûr, Philippe Joseph Farmer. Là aussi, hein, c'est comme chez Heinlein ou Anderson, tout est bon, mais il y a quand même deux grands cycles incontournables. C'est celui des Faiseurs d'univers qui est sorti là dans la collection Pulp Fiction chez à la Découverte. Hein, deux gros volumes avec l'intégrale et bien entendu le magnifique cycle du Monde du Fleuve, deux volumes chez Lafon, c'est superbe. Un autre grand, bien entendu, c'est Jacques Vance. Alors là, j'ai montré l'intégrale de La Planète Géante, qui est l'un des très grands classiques de Jacques Vance, qui est sorti au Bélial. Mais là aussi, Jacques Vance, il y en a énormément qui ont été publiés chez J'ai lu et puis chez Folio. Il y en a aussi chez Pocket, donc là aussi, c'est toujours plein d'humour et toujours très très bien trouvé, très bien écrit. Autre romancier, parfois un petit peu plus difficile à aborder, c'est bien sûr Alfred Elton Vavopt. Alors, au moins, le cycle du non-art, son grand classique sur la logique non-aristotélicienne, mais aussi à la poursuite des slans, là on est dans les valeurs sûres. Je suis obligé, bien entendu, de citer Arthur C. Clarke, hein, sinon vous n'auriez pas compris pourquoi je n'en parlais pas. Très honnêtement, c'est pas l'un de mes auteurs favoris. Il n'empêche que il faut avoir, par exemple, bon, la série des 2001. Récemment, Brajlon a eu la très bonne idée de faire la trilogie de l'espace. Ce sont les premiers romans de Clarke des années 50 sur la manière dont on voyait la conquête spatiale, et ce sont des romans qui sont des romans fondateurs parce qu'ils ont été extrêmement influents au sein de la NASA à l'époque. Beaucoup des grands ingénieurs de la NASA les ont lus. C'est là-dedans qu'il a inventé l'ascenseur spatial, la station orbitale, les choses comme ça. Ce sont des romans qui, certes, ont un petit peu vieilli, mais qui, pour la compréhension là, de la conquête spatiale, sont absolument essentiels. Il a eu toutes les grandes idées là-dedans. Autre grand romancier, plus célèbre d'ailleurs en France qu'aux États-Unis, c'est Philippe K. Dick. En plus de ça, nous avons la chance, là, dans la nouvelle collection du groupe J'ai lu, Nouveau millénaire, dirigé par Thibaut Eliroff, ils vont rééditer l'intégrale de Philippe K. Dick, y compris un certain nombre d'inédits qui n'avaient jamais été traduits en français. Alors là, bien sûr, je vous montre la couverture du Maître du Haut-Château, qui est quand même l'une des très grandes uchronies classiques, avec, à mon avis, et celui de certains autres, une petite erreur sur la couverture. Ceux qui connaissent le Maître du Haut-Château comprendront à quoi je fais allusion. Non, personne n'a lu le Maître du Haut-Château ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le Maître du Haut-Château, c'est l'histoire d'un écrivain de science-fiction américain qui vit dans un monde dans lequel les forces de l'Axe ont gagné la guerre, et donc les États-Unis ont été partagés entre l'Allemagne pour la côte Est et le Japon, bien entendu, pour la côte Ouest. L'écrivain en question, notre héros, vit dans la partie japonaise. Donc c'est United Pacific States of America. On pense que ça ne devrait pas être Hitler, mais plutôt Hirohito. Voilà, mais évidemment, on reconnaît plus facilement Hitler qu'Hirohito. Voilà, bon, petit point amusant sans plus. Un autre auteur, alors là je le cite parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un auteur anglais et qui est un petit peu oublié ici, souvent, et qui pourtant a été l'un des auteurs les plus originaux et les plus créatifs de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Eric Frank Russell. Auteur britannique, c'est très très intelligent, très amusant, etc. Et là aussi, Bragelonne, dans la série des trésors de l'ISF, a eu l'excellente idée, sous le titre Prisonnier des étoiles, de rééditer quatre des plus grands romans d'Eric Frank Russell, La guerre aux invisibles, Guerre, Plus X, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien, et ça se lit parfaitement bien. Alors bien entendu, il y a d'autres auteurs hein, que j'aurais dû citer, Silverberg, Ray Bradbury, Jack Williamson. Bon, là aussi, beaucoup de choses. Parmi les auteurs français, parce que vous constaterez que jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'anglo-saxons. Bon, dans les auteurs français de l'époque, le choix est un peu plus dur avec le recul du temps, mais quand même, bon, il y a Stéphane Lull, bien entendu, qui est réédité chez Folio SF. Il y a Julia Verlanger, qui était publié à l'origine dans la collection Anticipation du Fleuve Noir, mais qui a été l'un des très grands auteurs de la deuxième période d'Anticipation. Lull, c'était la première période, Verlanger, c'est dans la deuxième, et là, Bragelonne, toujours, dans toujours ses trésors de la science-fiction, qui est une très belle collection, a eu l'excellente idée de rééditer l'intégrale de l'œuvre de Julia Verlanger en quatre volumes. Bon, bien entendu, il y a aussi Philippe Curval, hein, que ce soit tout ce qui continue d'écrire. Et récemment, par exemple, Otar Blues, c'est absolument remarquable. Je cite aussi un auteur qui a été très influent, c'est Christian Léourier. Ses romans ont été longtemps introuvables. C'est de la très bonne science-fiction d'aventure. Et là, les éditions Ad Astra ont l'excellente idée de rééditer le cycle de L'âme meurt, qui avait été publié entre autres avant chez J'ai lu. Et donc là, c'est sous une forme facilement accessible. Donc le premier volume est sorti, je crois que le second va sortir dans le courant de cette année. Les autres auteurs français sont pour la plupart oubliés, guère réédités. Bon, alors je suis un peu injuste, il y a par exemple les romans de Gérard Klein, qui sont encore excellents, mais là ça fait partie des choses plus difficiles à trouver. B.R. Bruce aussi, par exemple, un certain nombre en SF populaire. Bruce était un auteur dont certains livres restent très très sympas à lire. Mais vous voyez, c'est assez restreint. Alors, fort heureusement, maintenant, si on s'attaque aux années les plus récentes, je dirais depuis la fin des années 90, on a vu un renouveau des auteurs français de la science-fiction française, absolument excellente, et vraiment qui aujourd'hui, on a des auteurs qui valent largement les grands auteurs américains. Hein. Alors, là aussi, je les cite dans le désordre, hein, ça n'est pas du tout l'ordre dans lequel je les aborde ne sous-tend pas un jugement de valeur. Je commence d'abord avec Xavier Bombéjean, que là, quand même, je considère comme l'une des meilleures plumes françaises contemporaines, qui est un auteur inclassable. Hein, il écrit dans tous les genres de l'imaginaire, mais je dirais qu'il faut avoir lu, bon, il faut avoir La Vénus anatomique, hein, qui est un roman de science-fiction qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, c'est brillant. La Reine des Lumières, qui a une uchronie un peu plus jeunesse, qui se passe dans un monde où Alexandre le Grand n'est pas mort en traversant l'Indus. Et donc, ben, on est dans l'empire gréco-indien qui subsiste 2000 ans après. Lilliputia, qui se passe à Coney Island au début du XXe siècle dans le célèbre parc d'attractions. Le dernier roman de Xavier, Rosée de Feu, qui est une uchronie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est brillant et souvent décoiffant. Autre auteur qui a été d'ailleurs, qui a beaucoup écrit à un moment à quatre mains avec Xavier Mauméjean, c'est Joan Elliott. Alors là, je cite Les Fils de l'air parce que c'est là aussi une uchronie absolument remarquable où Louis XVI a échappé, n'a pas été fait prisonnier parce qu'il a eu l'excellente idée, comme c'était un amateur de science. Au lieu de prendre sa vieille berline lente et lourde, il a écouté Monsieur de Montgolfier et il part en montgolfière. Donc il réussit à s'échapper et ça change le cours de l'histoire. C'est très intelligent et ça fait vraiment partie de ces uchronies où on se dit « Et si ça s'était passé comme ça ?» C'est tout à fait plausible. Bon, mais Elliott a écrit aussi, par exemple, « Ordre noir », qui est un roman très dur. Tout récemment, chez Nouveau Millénaire, Création, qui est une revisite de la Genèse, c'est très intéressant. Autre auteur fondamental que vous pourrez rencontrer ici, c'est bien entendu Pierre Bordage. Alors là, Pierre Bordage, une œuvre énorme, absolument remarquable, là aussi, tout est bon. Je montre La Fraternité du Panka. 5 volumes, le dernier tome va sortir d'ici quelques semaines. Là aussi, on est dans du grand space-opéra intergalactique. C'est magnifique. Il a fait aussi une uchronie en 2 volumes intéressante qui s'appelle Ceux qui sauront. Là aussi, dans une France où en 1789. Il y a eu la Révolution, mais ensuite la Restauration a perduré, et donc c'est la France monarchique d'aujourd'hui. Et pas de sourire quand j'utilise cette expression en pensant à certaines personnes. Bon, autre auteur, une femme, Jeanne de Batz, qui est l'une des nouvelles plumes talentueuses de la science-fiction française. Alors, ce qui l'a fait connaître, La vieille Anglaise et le continent, court roman magnifique, plus récemment Plaguers à la Talente, très intéressant sur tous les problèmes d'écologie et d'évolution. Bon, Stéphane Beauverger, le Déchronologue à la Volte, petite maison d'édition dont je n'ai pas parlé, mais qui fait partie justement de ces éditeurs extrêmement exigeants qui découvre des nouveaux talents ou publie de grands livres injustement oubliés. Donc le Déchronologue, là aussi encore une uchronie, me direz-vous, tout à fait décoiffante et qui d'ailleurs a été couronnée par pas mal de prix. Bon. Un auteur peu connu, mais que je cite parce que j'aime beaucoup ce roman, que je trouve l'un des romans les plus originaux de ces dernières années, c'est Paul Carta, avec Crime temporel, ou la véritable explication de ce qui s'est passé lorsque Agatha Christie a disparu mystérieusement pendant 10 jours. C'est très très amusant et très intéressant. Autre auteur féminin incontournable, Catherine Dufour. Là je montre Le goût de l'immortalité chez Mnemos, roman remarquable, mais tout ce qu'a écrit Catherine Dufour, c'est toujours à la fois très acerbe, très finement observé, petite touche d'humour noir et des histoires toujours excellentes. Autre grand romancier français, Laurent Genefort, que certains d'entre vous connaissent sans doute pour son cycle de Mal, mais aussi plus récemment vient d'être édité Memoria, qui est chez Folio, qui est une histoire très curieuse. Son dernier petit roman, Le sang des immortels, c'est très intéressant. Jeune auteur qui vient de se faire connaître pour son premier roman, c'est Raphaël Granit Cassagnac avec Eternity Incorporated, du post-apocalyptique, peut-on dire, tout à fait intéressant. Autre nouvel auteur qui vient de faire un roman de science-fiction absolument passionnant, c'est Loïc Henry avec Loire. Bon. Autre auteur aussi intéressant qui s'était fait connaître pour un roman de vampire, c'est Eric Holstein, qui l'a fait une chronique qui s'appelle D'or et d'émeraude, qui a la particularité de se passer en Colombie. Et si un conquistador espagnol de l'époque, son expédition avait évolué différemment, tout à fait intéressant. Grand incontournable, grand ancien qui est revenu récemment à la science-fiction avec Mais le Monde chez Ailleurs et Demain, c'est Michel Jury. Et Michel Jury, c'est un grand auteur des années 60, entre autres sous le pseudo aussi de Daniel Higon, etc. Et chez Bragelonne, dans les trésors de la science-fiction française, vous pouvez lire plusieurs de ses anciens romans qui ont été réédités. Autre grand auteur français, c'est Serge Lehmann, mais qui a peu écrit ces derniers temps. Sa série de Faust, par exemple, est devenue difficilement trouvable, sauf d'occasion. Mais Les Moutons électriques ont eu la bonne idée de rééditer, en lui demandant de le mettre un peu à jour, ses romans de l'espion de l'étrange, Karel Gabek, c'est très très bien. Jean-Marc Limy, est un autre romancier français important. Alors là, il a écrit beaucoup de choses, en particulier à quoi TF chez La Talente, qui est un roman décoiffant. Et là, je vous montre sa série Space Opera des Arches Stellaires, qui a été éditée chez ActuSF. 4 petits volumes, vraiment, ça se lit avec beaucoup de plaisir. Bon, Laurent Pougeois, nouvel auteur dont j'avais parlé pour L'Ange Blond, et bien entendu Roland Wagner, incontournable. Alors, d'une part, pour la série de son détective qui a été parisien du futur, qui a été réédité chez J'ai lu, et puis pour son nouveau roman qui a fait beaucoup de bruit, qui est sorti il y a quelques mois, Rêve de gloire, qui est une uchronie sur l'Algérie, qui est absolument formidable, mais pas recommandé pour un lecteur qui voudrait s'initier à la science-fiction et n'en a jamais lu avant. Mais pour les lecteurs un peu plus avertis, c'est absolument superbe. Donc ça, voilà pour le domaine français contemporain. Le domaine anglo-saxon, vous doutez bien que c'est énorme. Hein. Le nombre d'auteurs qu'il y a sont très très nombreux. Bon, mais on peut quand même citer, alors ça c'est un incontournable, évidemment c'est Douglas Adams, hein, le guide du voyage galactique. Et l'une d'encre a édité un volume omnibus. Vous voyez, l'intégrale de la trilogie en 5 volumes, donc ça pose tout de suite l'état d'esprit du roman, de ses romans. C'est toujours très drôle. Bon, bien entendu, Stephen Baxter, que vous pourrez rencontrer à partir de demain, qui vient ici, c'est l'un des très grands. On est dans ce qu'on appelle plutôt la hard science, hein, en science-fiction, c'est-à-dire des romans qui sont basés vraiment sur la science contemporaine et ce que ça pourrait donner si on projette des avancées de nos découvertes actuelles. Alors là, je montre son cycle, sa trilogie des univers multiples, Temps, Espace, Origine, paru au Fleuve Noir, et réédité, je crois, chez Pocket. Ou alors là, à chaque page, vous avez un nombre d'idées énormes qui suffiraient elles seules à faire un roman chez n'importe qui d'autre. C'est brillantissime. Et puis, il y a aussi, par exemple, son cycle d'Exilie en 3 tomes au Bélial. Tout ça, c'est de la très, très grande science-fiction. Autre grand auteur qui est très original, c'est Ian Banks, hein, avec en particulier son cycle de la culture. Ça, là, vous voyez l'un des 2 tomes du dernier roman sorti chez Ailleurs et Demain. Hein, donc, mais tout le cycle de la culture, en particulier L'Homme des Jeux, etc., c'est sorti d'abord chez Lafon en Ailleurs et Demain, et c'est réédité ensuite au livre de poche. Donc le cycle de la culture, c'est remarquable. Dans un domaine un petit peu plus léger, Jack Campbell, ça c'est du space opéra, tendance militariste, intelligent, ce n'est pas un oxymore. La flotte perdue, 6 volumes chez l'Atalante, c'est absolument passionnant. Ça c'est vraiment le grand space opéra aussi à l'ancienne. Bon. Totalement à l'opposé, Greg Egan. Grand romancier, là de la lecture beaucoup plus exigeante, mais s'il y en a un à lire, même s'il commence à être un tout petit peu ancien, c'est La Cité des Pères Mutants, sur les univers virtuels, leurs possibilités, c'est très décoiffant. Autre romancier, britannique, Jasper Ford, qui est sans doute l'un des auteurs les plus originaux de ces dernières années, avec l'affaire Jeanne Eyre et puis les 4 volumes qui suivent, c'est de la science-fiction loufoque, mais en même temps passionnante, où on a un savant fou à trouver le moyen de rentrer dans les univers des livres. Et donc dans le premier, on rentre chez Jeanne Eyre et on est dans un monde dans lequel les populations ne sont pas passionnées par le sport, mais par les livres et les auteurs. Un monde de, une utopie en somme. Donc vraiment à lire. Autre nouvel auteur intéressant, Karine Lowashi, les deux volumes qui sont sortis au Bélial, très très intéressant, du space opéra là aussi. Paul Macaulay, un auteur très intéressant qui a écrit beaucoup de choses. Alors je recommanderais entre autres les Conjurés de Florence. C'est une uchronie qui se passe à la Renaissance, c'est suffisamment rare pour le souligner, et qui a comme point de départ, Léonard de Vinci, non seulement a fait des plans, mais ensuite, il a pu les réaliser. Donc, la révolution industrielle a eu lieu à Florence, à la fin au XVIe siècle. Bon, ça, très très bien. Et en plus, c'est un polar en même temps. Et puis, dans un style complètement différent, La Guerre tranquille, du très grand space opéra sur la conquête spatiale. Ça se passe dans notre système solaire. Le thème est très années 50, mais alors complètement revisité années 2000. C'est très intéressant. Le reste de Macaulay, qui a été publié en particulier chez Ailleurs et Demain, les autres romans sont aussi pas mal du tout. Ian MacDonald, que j'ai déjà cité, ses autres romans sont très bien. Un auteur espagnol très intéressant, c'est Javier Negrete, en particulier pour ceci, qui est une autre uchronie sur Alexandre le Grand, qui ne meurt pas avant de la traversée de l'Indus, et là, dans lequel il fait ce qu'il avait sans doute prévu de faire, c'est-à-dire qu'après avoir conquis les Indes, eh ben, le seul ennemi qui reste, c'est Rome qui est en train de grandir, et donc il se retourne contre Rome. Très très intéressant. Aussi, un autre auteur intéressant, là encore de la science-fiction militariste intelligente, c'est John Scalzi avec sa trilogie du Vieil Homme et la Guerre chez l'Atalante. C'est vraiment magnifique, ça pose plein de questions. Alors, un petit aparté, il y a un 4e volume à cette trilogie qui est sorti. On peut s'en dispenser, mais ça n'apporte rien. Ça donne l'impression que, comme ça marchait bien, l'éditeur américain de Scalzi lui a dit continue à exploiter le filon. Donc c'est vu à travers, c'est la même histoire, vu à travers les yeux de la fille du héros. On a déjà tout lu avant. Honnêtement, ça apporte pas grand chose. Mais les 3 premiers, ça, c'est brillant. Autre auteur anglais très intéressant, c'est Charles Strauss, et en particulier avec le Bureau des atrocités, c'est féroce, c'est déjanté, c'est remarquable. Et puis il y a plus récemment la série en 4 volumes des Princes Marchands, hein, aussi chez Ailleurs et Demain, un petit peu plus classique sur le thème des univers parallèles. Et des gens qui passent des uns aux autres, mais c'est tout à fait intéressant. Peter Watts, dont j'ai déjà parlé, Là aussi, on est dans de la hard science, vraiment hard, mais c'est absolument remarquable. Donc Rifter, deuxième, le premier, mais ils peuvent se lire plus ou moins indépendamment, c'était Starfish, tous les deux au fleuve noir. Là, de la science-fiction moins exigeante, mais tout à fait agréable pour passer un bon moment, c'est David Weber. Alors, bien entendu, l'énorme série d'Honor Harrington et de l'univers de Honor Harrington à la Talente, je sais plus combien il y a de volumes, au moins 16, je pense. Parce que chaque roman anglais qui est assez épais est scindé en deux en français. Hein. Donc, il doit y avoir au moins 16 romans. Mais c'est très bien. Et puis là, une nouvelle série de Weber qui commence chez Bragelonne, qui est très bien aussi, là aussi du grand space opéra. C'est sa série Sanctuaire, je crois que le troisième volume vient de sortir ou va sortir. Autre auteur intéressant dans un registre complètement différent, c'est Robert Charles Wilson. Alors, par exemple, les deux volumes qui sont sortis chez Lune d'Encre, Spin et Axis. Bon. Et puis, autre auteur aussi intéressant, c'est un auteur cubain, c'est Yos. Alors, un roman absolument remarquable qui est Planète allouée, sorti chez Mnemos. Et Rivière Blanche avait sorti avant un recueil de nouvelles dont le titre m'échappe comme ça, enfin bon, qui est aussi très très bien. Donc voilà, alors ça, inutile de dire, comme vous voyez, c'est une courte sélection, il y a beaucoup d'autres auteurs que j'aurais pu citer, mais bon, ça serait difficile. Ça va, je suis pas trop en retard, j'ai réussi à rattraper. Bon, alors pour en terminer, donc, on a fait le tour de quelques auteurs qui me semblent très représentatif de ce qui s'est fait et de ce qui se fait aujourd'hui en SF. Alors, il y a en plus de ça, pour vous tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe, il y a deux revues auxquelles vous devez vous abonner pour suivre ce qui se passe. D'une part, c'est Bifrost. Qui fait partie des éditions du Bélial, qui existe depuis avril 1996. Donc, dans chaque numéro, vous avez un dossier toujours très bien fait et très complet sur un auteur français ou étranger, quelques nouvelles et un nombre de recensions de ce qui s'est publié en français énorme. Donc ça permet de bien suivre l'actualité. Et l'autre revue, c'est Galaxy, au pluriel, nouvelle série, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être la revue Galaxy, qui avait été publiée d'abord à la fin des années 50, puis ensuite dans les années 60, très influente. Alors là, c'est maintenant, on est dans Galaxy, dans sa dernière incarnation. Hein, c'est la nouvelle série qui existe depuis 2008. La première avait été faite par Stéphane Nico de 1996 à 2007. Là aussi, dans chaque numéro, le principe est celui d'un dossier sur un auteur ou sur un domaine particulier. Là, par exemple, dans celui-ci, la nouvelle science-fiction russe. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Russie et en France, à part les efforts de Patrick Lajoie et de sa femme, et de Rivière Blanche qui a publié des anthologies, on connaissait quasiment rien sur la science-fiction russe contemporaine. Donc des dossiers, des critiques et quelques nouvelles. Donc ça, ce sont vraiment les deux revues qu'il faut soutenir et auxquelles il faut s'abonner. Il en existe une troisième qui est publiée par les Moutons Électriques, Fiction, qui là est purement littéraire. Il y a deux sites sur Internet qui sont eux aussi incontournables pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui est publié, et éventuellement, si ça vous intéresse, des derniers ragots. Alors, le premier, c'est Nosphère. Alors, je suis désolé, je ne suis pas très doué pour faire des captures d'écran. Mais enfin, donc, le site ActuSF, hein, vous tapez ActuSF en un seul mot, Sur Google, vous tomberez tout de suite sur le site. De toute façon, ils ont un stand ici. Et le deuxième, c'est Noosphère. Et Noosphère, vraiment, pour la base de données, vous cherchez à savoir ce qui a été publié par un auteur en France. Vous tapez son nom dans leur base de données, immédiatement vous trouverez tout ce qui a été traduit en français, les différentes éditions, etc. Il y a aussi un nombre de critiques absolument remarquables. Et puis, enfin, pour vous tenir au courant, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, comme je vous l'ai dit, il y a tous les essais qui sont publiés en France, en particulier aux moutons électriques, tout ce qui a été publié ces dernières années. J'ai cité tout à l'heure le Space Opera, mais vous avez les zombies, le steampunk, etc. Donc vraiment sur des domaines plus pointus, tous les essais des moutons électriques, plus deux ouvrages de référence totalement incontournables, tous les deux publiés aux éditions Ancrage. C'est d'une part l'ouvrage d'Éric Henrier sur l'Uchronie, et d'autre part l'ouvrage de Lycos et Joseph Alterac sur la Terre creuse et les mondes souterrains. 1800 références, c'est colossal. Ça peut vous donner des idées si vous voulez construire ensuite, bâtir ensuite des sous-rayons beaucoup plus spécialisés. Donc, j'espère vous avoir montré à travers ce que je viens de vous citer, que créer une collection de science-fiction bibliothèque, c'est peut-être une œuvre un peu ardue, mais c'est surtout et avant tout une œuvre absolument nécessaire. Merci beaucoup. Je crois que je suis dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être été un peu vite. Éric Henrier, H-E-N-R-I-E-T. Et ensuite, c'est Guy Coste, donc C-O-S-T-E-S, et Joseph Alterac, A-L-T-A-I-R-A-C. Cela dit, si certains d'entre vous sont intéressés, nous pouvons faire comme on avait fait pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est-à-dire que si vous me donnez vos adresses mail, si vous voulez, je peux vous envoyer le listing reprenant la bibliographie avec les noms des auteurs, enfin ce que j'ai cité dans le texte, parce que quand on va vite, bon, c'est pas forcément facile de prendre des notes, mais si certains d'entre vous sont intéressés, vous me donnez vos adresses mail et puis je vous enverrai ça après le week-end, parce que là on va avoir 3 jours assez chargés. Bon. Est-ce que vous avez des questions sinon? Oui, madame. Je m'excuse, je vous entends pas du tout. Bon, nous repartons pour une heure, vous êtes prêts? En littérature jeunesse, alors, là c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, tout de suite. Il y avait une collection qui était très bonne, mais qui vient de s'arrêter, c'était chez Mango. Le nom de la collection m'échappe. Il y avait deux collections. Il y avait une collection de fantasy qui s'appelait Royaume perdu. Autremonde, voilà. Alors la collection Autremonde au pluriel chez Mango, en jeunesse, c'est encore disponible. Ce sont principalement des auteurs français. Vous trouvez des gens comme Nathalie Legendre, comme Fabrice Collin, comme Xavier Mauméjean, etc. Le niveau général est vraiment excellent. Sorti chez Mango, mais pas dans cette collection-là, Il y a eu la série de... Alors, quelqu'un m'avait expliqué comment prononcer correctement, sans l'écorcher, le nom de cet auteur irlandais que je prononcerai à la française, McGann, Eoghan McGann. Enfin, en bon français, ça s'écrit voisin. Hein. Eoghan McGann. Et donc, vorace et féroce, ça c'est de la science-fiction jeunesse, super décoiffante, vraiment très très bien. Un autre auteur jeunesse que vous connaissez sans doute pour sa série précédente, c'est Scott Westerfeld. Et là, il y a deux volumes qui sont sortis chez Pocket Jeunesse, c'est Léviathan et Behemoth. C'est vraiment très très bien. Donc chez Pocket Jeunesse, il y a un certain nombre d'autres auteurs qui sont pas mal, mais il y a moins de science-fiction aujourd'hui en jeunesse que de romans qui sortent un petit peu de ça. Par exemple, il y a un certain nombre de romans zombies, hein, des histoires de zombies. Dans les collections spécialisées jeunesse, il n'y a pas beaucoup de science-fiction. Par exemple, chez Castelmore, c'est plutôt du fantastique et de la bitlite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me viennent à l'esprit en science-fiction jeunesse? Il y a une très jolie série qui a commencé à sortir chez un petit éditeur qui s'appelle Helium. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute petite maison d'édition. Helium, et c'est World Shaker, suivi du Liberator. Et alors là, j'ai un trou sur le nom de l'auteur. Je suis désolé, mais je suis sûr des titres. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en science-fiction? Oui, alors il y a les mini-sunes, où il y a eu par exemple Jeanne de Batz qui a écrit. Vous avez raison, ça j'y pensais pas, parce que là c'est vraiment. Alors là c'est vraiment pour les tout petits. Enfin, pour les tout petits, non. 8-9 ans. Mais les mini-sounes de chez Ciro sont très bien. Et effectivement, pour les adolescents, dans la collection Ciros, la Soune chez Ciros, il y a aussi, vous avez raison, il y a Eden en sursis de Jeanne de Batz, il y a un roman de Nathalie Legendre dont le nom m'échappe, juste le titre m'échappe comme ça, qui est très bien. Donc, ça aussi, oui, Ciros, c'est quelque chose à voir. Il commence à y en avoir aussi en jeunesse chez Scrinéo. Vous avez une série qui s'appelle Via Temporis et qui là sont des uchronies jeunesse. Donc on est aux marges de la science-fiction, mais ça c'est pas mal du tout chez Scrinéo. Aux marges aussi de la science-fiction parce que c'est un univers alternatif. Vous avez la série des enquêtes d'Hector Krein de Stéphane Tamayon, c'est chez Grund. Hein, il y a eu deux volumes de paru. Alors là aussi, est-ce qu'on le classe en science-fiction, est-ce qu'on le classe en fantastique? On peut en discuter, mais ça aussi, ce sont des très bons romans. Et puis, naturellement, plus anciens, mais je pense qu'ils doivent être constamment réédité à la Bibliothèque Verte, il y a les différentes séries de Philippe Eblis. Comment ça s'appelle? Les Conquérants de l'Impossible, etc. Il y a plusieurs séries comme ça. Alors, c'est des séries qui ont été écrites dans les années 70, mais qui se laissent toujours lire avec beaucoup de plaisir, et je pense que c'est toujours réédité en Bibliothèque Verte. voilà ce qui me vient comme ça, hein, à l'esprit. J'en oublie certainement, je suis désolé, mais voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Là aussi, grande question. J'en ai parlé, j'ai eu l'occasion de faire des interventions là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, là, on parlait de science-fiction. Et pour moi, dans science-fiction, il y a le mot science. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un élément scientifique, même s'il est extrêmement lointain. Dans un grand nombre des romans que j'ai lus, que j'ai cités, le côté scientifique est parfois extrêmement ténu. Mais ça peut se passer dans le futur, ça peut se passer dans le passé. Si on a un roman qui se passe dans l'Atlantide, où ils utilisent une haute technologie à travers leurs cristaux, et c'est pour ça que ça s'engloutit, parce que ça tourne mal, c'est de la science-fiction. Si on découvre, quand le professeur Challenger découvre un monde perdu, où les dinosaures sont toujours survivants sur les hauts plateaux de l'Amazonie, c'est de la science-fiction. Mais je vous accorde que le lien scientifique est extrêmement ténu. C'est là où je fais la différence par rapport au fantastique d'une manière très générale, où dans le fantastique, les auteurs utilisent des éléments qui sont plutôt tirés de notre folklore, de nos mythologies, etc. Par exemple, une histoire de fantôme ressort du fantastique. Cela dit, si vous avez un savant qui a inventé une machine pour matérialiser les fantômes, des esprits désincarnés qui flottent autour, on passe aussi dans la science-fiction, bien entendu. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'urban fantasy, qui pour moi est à la base du fantastique, hein, des gens qui vivent parmi nous mais qui ont des pouvoirs de magiciens, etc. Mais qui intègrent des éléments. Je pense par exemple à un roman, je ne résiste pas au plaisir de le citer parce que je l'ai trouvé magnifique, c'est le roman de Matthew Swift qui s'appelle La folie des anges, qui est sorti chez Eclipse, aux éditions Eclipse l'année dernière. Couverture absolument hideuse, mais il ne faut pas se laisser arrêter par la couverture, il faut lire le roman. C'est à la base de l'urban fantasy, puisque ça se passe dans notre monde contemporain, mais certaines personnes ont des dons de magicien. Et en fait, tout est magique. Toutes les êtres, toutes les choses ont une magie récurrente, et si on a le don et qu'on sait s'en servir, il y a une scène par exemple où le héros est poursuivi et il se réfugie dans le métro londonien et il utilise la magie du métro à travers un vieux ticket, et donc quand il anime la magie du métro qui se protège, pour rentrer il faut avoir accès par un ticket, sinon on n'a pas payé le droit d'entrée. Et donc, ces poursuivants n'ont pas de ticket sur eux, donc ils sont bloqués, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer, et là, par une muraille visible. Mais on découvre que c'est une partie... Alors, je suis désolé, je vous dévoile un petit peu ce qui fait l'intérêt du roman, mais c'est pour illustrer mon propos. J'espère que ça ne vous dégoûtera pas de lire le roman, bien au contraire. C'est que les créatures magiques qui s'incarnent dans notre monde, en fait, on découvre que ce sont les résidus de tout ce qui est publié et créé sur le net, Et quand on efface, il y a des résidus qui restent. Et c'est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des mèmes. C'est-à-dire que ces intelligences artificielles se créent petit à petit par une sorte de coagulation de tous ces bits perdus un peu partout. Est-ce qu'on est toujours dans du fantastique ou est-ce qu'on est passé dans la science-fiction? Voilà. Donc, c'est pour ça que, naturellement, les frontières sont très poreuses. Et même, alors, aussi pour rebondir, au niveau de ce qu'on appelle la fantaisie. La fantaisie, a priori, c'est un genre qui est bien défini, hein, des dragons, des nains, des elfes, des trolls, etc. On se bat avec des grosses épées ou des grosses haches et tout. Bon. Mais j'ai cité John Carter tout à l'heure, les aventures de John Carter sur Mars. Mis à part le fait que ça se passe sur Mars, pour le reste, c'est quasiment de la science-fiction. De même, Leigh Brackett, toutes les aventures, une partie de ce qu'elle a écrit, ça pourrait être plutôt de la fantasy, à part le fait que ça se passe sur une autre planète. D'ailleurs, à une époque, les Américains avaient créé un terme qui est tombé un peu en désuétude, qui était science fantasy, le mélange des genres. Donc, les frontières sont très poreuses. Il y a eu aussi, par exemple, des romans qui ont été catalogués en science-fiction. Il y en a un, naturellement, que j'ai une mauvaise mémoire, le titre m'échappe juste maintenant, qui était remarquable, d'un romancier australien. Donc, c'est une exploration, un vaisseau d'exploration spatiale. Le capitaine est un vampire. Parce qu'évidemment, les vampires, eux, ils vivent éternellement. Donc, c'est quand même mieux, hein, sur la durée, d'avoir un équipage avec un capitaine vampire. Où est la frontière? Ça se place dans les deux. Mais ça, Dieu merci, ce sont des problèmes pour vous qui êtes bibliothécaire, de savoir comment vous allez les cataloguer. Moi, dans ma bibliothèque, je mets tout ça en vrac. J'ai pas besoin de me poser de problème. Ouais, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté patiemment.